Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web à graphite.net. Je m'appelle Quentin, Quentin Duchemin, et je suis en direct en studio avec 4 étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne. Camille, Adrien, Axel et Oussama, bonjour à vous.
Bonjour.
Et on se retrouve cet après-midi pour des émissions autour de l'UVWE01, questionner le web de l'UTC, dont le contenu est librement accessible sur librecours.net. Aujourd'hui, les étudiants viennent présenter le résultat de leur recherche du semestre, articulé autour de grandes problématiques reliées au web et plus généralement au numérique. Avec les idées d'éducation populaire et d'esprit critique en tête, chaque binôme va vous présenter un passage en 3 temps, vulgarisation d'un concept du cours, synthèse d'un article scientifique ou d'investigation, et enfin articulation critique du concept ou de l'article dans un sens ou dans l'autre. Dans cette deuxième émission de l'après-midi, les étudiants vont vous présenter les deux faces d'un même phénomène, la marchandisation des données personnelles. D'un côté, des techniques issues de la recherche scientifique pour influencer les comportements, et de l'autre, des entreprises méconnues spécialisées en commerce de données aux clients très variés. Camille et Adrien, c'est vous qui commencez, et vous avez choisi de faire un jeu de rôle pour présenter les concepts et l'article. Donc, on va vous laisser sur ce jingle.
Aujourd'hui, on accueille deux experts, Camille, anthropologue, et Adrien, psychologue de l'enfance, qui vont nous parler de l'influence des écrans et quels sont leurs impacts sur notre quotidien. Adrien, afin d'introduire cette émission, pourriez-vous nous donner quelques chiffres clés sur l'usage des écrans chez les plus jeunes ?
Dans un premier temps, merci beaucoup de nous accueillir ici. Et oui, absolument, il existe de nombreuses données disponibles sur le sujet. En France, par exemple, on peut s'appuyer sur l'étude Esteban, publiée en 2015 et menée tous les 7 ans par Santé Publique France. Dans le chapitre justement consacré à l'activité physique et à la sédentarité, les chercheurs mettent notamment en lumière que la moitié des enfants de 6 à 10 ans ont déclaré passer 3 heures par jour ou plus devant un écran. Et cette proportion atteint les 70% pour les enfants de 11 à 14 ans. Face à de tels chiffres, le milieu pédiatrique comme le professeur Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement à l'université Paris-Cité, s'inquiète d'un tel constat.
Alors, c'est vrai que cette omniprésence des écrans, notamment dans la vie des enfants, des adolescents, pose question. À ce stade, peut-on parler d'addiction ? Quelles en sont les conséquences, aussi bien sur la santé que sur nos interactions sociales ?
Eh bien, ce sont justement ces interrogations qui ont conduit en janvier 2024 à la création d'une commission spéciale réunissant à la demande du président de la République 10 experts au profil très varié. Parmi eux, on compte par exemple Servane Mouton, neurologue, Amine Benyamina, psychiatre addictologue. On y retrouve aussi des chercheurs comme Jonathan Bernard, épidémiologiste, ou encore des spécialistes du numérique éducatif comme Marie-Caroline Misir. Et durant 3 mois, ils ont auditionné plus de 150 jeunes et une centaine d'experts afin de rédiger un rapport intitulé « Enfants et écrans à la recherche du temps perdu ». Et dans ce rapport, un constat net est dressé. Le numérique est omniprésent, à la maison, à l'école, dans les transports. Il fait partie du quotidien dès le plus jeune. En moyenne, on compte environ 10 écrans par foyer. Et les enfants mineurs passent déjà plus près de 3 heures par jour devant un écran. Et cela concerne même les plus jeunes. Les enfants de 3 ans à 6 ans consacrent déjà plus de 2 heures par jour à leur écran.
C'est vrai qu'on le voit au quotidien, par exemple, dans les transports en commun, où beaucoup d'enfants, même les enfants en bas âge, sont collés à des téléphones ou tablettes. Mais est-ce que ça consiste vraiment en danger ?
Effectivement, c'est une bonne question. Donc dans ce rapport, il y a une corrélation qui est mise en lumière entre la surexposition aux écrans et les problèmes de développement chez les enfants. Certes, cette technologie permet l'accès à la connaissance, à l'émancipation et développe la créativité, mais il peut aussi nuire à la formation de vos capacités cognitives, à votre santé mentale et physique, surtout quand l'usage est excessif ou non encadré.
Ah oui, effectivement, mais vous pourriez nous citer quelques exemples concrets d'effets néfastes, car personnellement, hormis la tendance à diminuer le temps de sommeil, je ne suis pas vraiment conscient d'autres symptômes majeurs.
Bien sûr. Par exemple, pour rebondir sur le sommeil, l'étude montre que la lumière qu'ils produisent diminue également la qualité de cette récupération. Cette exposition prolongée est également une source de sédentarité accrue, donc de prise de poids, des troubles de la vue comme la myopie. Et on observe également, avec les réseaux sociaux notamment, une accentuation de l'anxiété et de la dépression chez les jeunes, chez les plus jeunes. Et à cela, on peut rajouter d'autres phénomènes, comme par exemple la technoférence. Ça correspond au contexte où en fait les adultes sont eux-mêmes absorbés par leurs écrans. Cette absence d'attention et de considération nuit forcément aux échanges nécessaires à l'apprentissage et au langage chez l'enfant, pouvant provoquer, dans le pire des cas, chez les plus jeunes, des comportements similaires à des comportements autistiques, donc tout ce qui est isolement, troubles de l'attention, des tics également. Et justement, face à l'ampleur de ces phénomènes, la commission a formulé 29 recommandations. Parmi elles, pas de téléphone avant l'âge de 11 ans et il faut revoir une partie de nos habitudes en lien avec les écrans. Par exemple, limiter la télévision pendant les repas au profit de moments d'échange et de jeux d'éveil. Ces activités sont essentielles car durant la petite enfance, l'enfant développe ses sens, apprend et construit ses repères.
Ah, vous faites bien d'aborder la question des habitudes car dans le domaine des technologies, leur création est une véritable discipline. Elle vise à amener l'usager a développé des comportements automatiques, souvent inconscients. C'est exactement ce qui se passe avec les enfants qui sont confrontés à ce qu'on appelle la captologie.
La captologie ? Est-ce que vous pouvez un peu m'éclairer sur le sujet parce que je ne connais pas du tout ?
Alors, justement, j'ai un court extrait d'une interview d'un expert sur le sujet qui le vulgarise parfaitement.
Thibault Renard, je suis un professionnel de l'intelligence économique depuis de nombreuses années. J'ai été responsable du réseau intelligence économique des chambres de commerce et d'industrie pendant presque une quinzaine d'années, et aujourd'hui je suis senior advisor au cybercercle et je travaille notamment sur les problématiques de bataille de l'attention et notamment tout ce qui est captologie. La captologie donc qui est à mi-chemin entre une science et une série d'outils de ce qu'on appelle les technologies persuasives, c'est-à-dire en gros comment est-ce qu'on utilise l'outil informatique pour capter l'attention des personnes. Ça a véritablement démarré chez Facebook, la captologie. C'est pour ça que Facebook, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Facebook étant très gros, parce que c'est eux vraiment qui lancent la captologie, qui sont vraiment pas les pionniers, mais en tout cas ceux qui ont créé un business model sur le sujet. Avant, Google, son business model, c'était attirer les annonceurs, etc. Et Facebook, c'est les premiers à miser sur la captologie. Et on voit qui est-ce qui embraye aussitôt après. On le voit, hein, c'est Google. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les GAFAM. Voilà, il n'y a pas que du Google, du Facebook, du Apple, du Microsoft. Ça, c'est intéressant. Il y a Netflix aussi. C'est-à-dire qu'on voit aussi apparaître des acteurs, les plateformes télévisuelles, par exemple. Et Netflix, typiquement, utilise de la captologie. Si vous êtes sur Netflix, l'épisode ne s'arrête pas. Il y en a un autre qui s'enchaîne. Et typiquement, c'est de la captologie.
Alors, comme le dit Thibault Renard, la captologie, c'est l'art d'utiliser l'outil informatique à des fins persuasives, c'est-à-dire comment la conception du produit influence nos actions, nos attitudes, nos pensées, sans recourir à la force ni à nous convaincre avec des paroles. Par exemple, les développeurs utilisent ce type de pratique pour fidéliser les élèves aux applications d'apprentissage des langues. Ils créent des petites récompenses, des checkpoints de progression, et incitent les utilisateurs à se connecter quotidiennement en prenant les entraînements consécutifs.
Mais moi, de ce que j'ai entendu de cet extrait, on dirait quand même vachement du contrôle, voire de la manipulation de comportement.
Eh bien, la captologie a initialement un étroit lien avec la persuasion. Et c'est basé sur la capacité à changer l'attitude d'une personne. C'est avec l'arrivée des technologies interactives que B.J. Fogg, le directeur du laboratoire de recherche comportementale de Stanford, trouve le besoin d'étudier son fonctionnement dans les années 90. Donc en fait, cette captologie, c'est un néologisme de sa part, qui vient dans l'anglais, Computer as a Persuasive Technology.
Mais pouvez-vous nous expliquer comment en fait, ces concepteurs s'y prennent pour influer en fait, sur le comportement d'un individu avec cette captologie sans l'imposer, afin qu'on puisse un peu savoir comment contrecarrer en fait, ces phénomènes?
Avant tout, on peut évoquer un petit outil central dans le design persuasif et donc qui va aider dans la captologie après, c'est l'affordance. Il en existe deux types. L'affordance perçue, ce que l'utilisateur croit pouvoir faire. Par exemple, un bouton visuellement en relief incite naturellement au clic. Et ensuite, c'est l'affordance réelle, donc ce qui est réellement possible de faire, même si ce n'est pas évident. On peut balayer par exemple une notification sur son téléphone, même si rien nous indique visuellement de le faire. Donc un design efficace cherche à rapprocher ces deux types d'affordance pour rendre l'interaction intuitive et renforcer l'attraction des contenus, l'attractivité des contenus.
Donc, si je comprends bien, on serait influencé par plein de petites choses du quotidien.
C'est ça. Et Ni Réal, auteur, conférencier et chercheur en psychologie comportementale et habitudes numériques, en tant qu'ancien élève de Fogg, a théorisé cette méthode addictive dans son livre Hooked, How to Build a Habit-Forming Product.
Et y a-t-il une façon de faire ? Des caractéristiques typiques de ces conceptions ?
Alors justement, il liste plusieurs méthodes pour arriver à ces fins. Donc la première, c'est la réduction. Cette méthode se base sur la simplification du nombre de tâches que l'utilisateur doit accomplir. Plus une action est simple, plus elle est susceptible d'être réalisée. Ensuite vient la tunnelisation. Il faut tenir par la main l'utilisateur durant toute son utilisation d'un logiciel, étape par étape. On obtient plus facilement le comportement type souhaité de l'utilisateur. S'ensuit l'adaptation de l'information à l'individu pour la rendre plus pertinente, ce qu'on appelle la personnalisation et la suggestion. L'objectif, c'est fournir des informations au bon moment pour attirer l'attention du consommateur, une notification aguicheuse ou un rappel. Et pour finir, il y a le conditionnement avec le système de réponse variable. Les jeux, par exemple, utilisent le renforcement positif et parfois négatif pour façonner ou maintenir des comportements en récompensant chaque étape de progression. Et je vous invite franchement à regarder vos applications préférées et à vous demander quelle technique de persuasion utilise-t-elle pour capter mon attention. Et vous verrez, la captologie est omniprésente.
Ah oui, donc les petits logos aux couleurs flashy et les sons satisfaisants des interactions, c'est pas juste mignon alors ?
Alors non, en effet, ces éléments sont choisis pour stimuler le cerveau, notamment le circuit de la récompense, et leur faire consommer davantage de contenu. Une étude s'intéressant aux recommandations algorithmiques des plateformes vidéo menée par Radesky et publiée dans JAMA Pediatrics en 2020 a montré que les enfants qui utilisent des applications et des mécanismes captologiques comme des sons accrocheurs, des notifications ou des lectures automatiques passent davantage de temps devant les écrans. Comparé à ceux qui, évidemment, utilisent des applications plus neutres. Et une étude, notamment, donc quelque chose qu'on a très souvent vu, se focalisant sur l'autoplay de Netflix, a estimé cette différence de temps à 17 minutes par session.
17 minutes supplémentaires sont ajoutées grâce ou à cause de cet ajout de lecture automatique ? C'est extrêmement problématique, ça. Car le souci, c'est que chez les enfants, ce circuit de la récompense est en plein développement. Il n'est pas encore capable de bien réguler les variations de dopamine engendrées.
Qu'entendez-vous par réguler ?
Comme le démontre le rapport Children's Health in the Digital Age, désolé pour mon accent, les enfants sont beaucoup plus vulnérables aux stimuli environnants. Cette exposition génère des sécrétions de dopamine et de sérotonine importantes, saturant parfois leur cerveau en développement. On observe dès lors chez ces enfants des altérations similaires à celles observées dans les cas de dépendance sévère. Et c'est pour ça que la captologie m'intrigue. En fait, comment ils font concrètement pour influencer nos comportements ?
Prenons un exemple concret. YouTube Kids, tiens. On y retrouve un premier mécanisme, la réduction qu'on a vu précédemment, avec l'interface qui est simplifiée afin qu'un enfant puisse naviguer sans effort. Mais en simplifiant à l'extrême, on supprime toute friction, donc toute réflexion, l'enfant consomme et c'est tout.
Donc en fait, c'est comme lui tendre des bonbons sans qu'il ait besoin de demander quoi.
Exactement, et sans jamais lui rappeler que s'il en a déjà mangé 10, il peut continuer d'en manger. Ensuite vient le tunneling avec l'autoplay. L'enfant regarde une vidéo et paf, une autre se lance directement. Pas besoin de revenir au menu, il est dans un tunnel et chaque vidéo le pousse un peu plus loin.
Une sorte de toboggan sans fin.
Ouais, exactement.
Et les fameux algorithmes là-dedans, qu'on a toujours parlé.
Là, on est dans le tailoring, c'est la personnalisation. YouTube Kids apprend par exemple ce que l'enfant aime et lui sert une soupe infinie des mêmes contenus, ce qui peut bloquer sa curiosité ou renforcer ses obsessions.
Donc ça, c'est quand l'appli fait des suggestions, toutes faites.
Exactement. Et donc YouTube Kids enregistre les préférences de l'enfant, ses horaires, ses clics. Tout est utilisé pour le garder plus longtemps et développer des suggestions. Tu t'arrêtes une seconde et YouTube te propose aussitôt une autre vidéo qu'il appelle « Juste pour toi ». L'objectif est clair, éviter toute pause.
Mais comme l'évoque la commission d'experts, c'est aussi aux parents de contrôler et de minimiser cette passivité.
Ah mais je suis totalement d'accord. Mais justement, sur YouTube Kids, il n'y a aucun retour visible sur le temps passé pour la famille, quantifié exactement ou ne serait-ce qu'avoir un historique de la durée d'exposition est un vrai calvaire.
Ah ouais, effectivement. Donc ça semble complexe pour les parents de restreindre une activité qu'ils ne peuvent pas quantifier.
Ouais. Et pour compléter ça, on ajoute un bon système qui va booster leur dopamine et leur donner un goût de reviens-y. Des couleurs vives, musique joyeuse, des personnages qui félicitent et chaque ligue est récompensée. C'est du renforcement comportemental pur, comme un jeu de hasard.
Donc, on pense protéger nos enfants avec des applications adaptées à la jeunesse, mais en fait, on les expose à une ingénierie de l'attention. Mais rassurez-moi, il y a bien des initiatives, des alternatives, pardon, à ce genre d'application, avec moins de pression sur l'attention notamment.
Ouais, bah, il existe des approches comme le design éthique qui propose d'intégrer des pauses, de limiter des boucles de contenu ou d'impliquer les parents. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous renseigner sur OKPlay aux États-Unis. C'est une plateforme de contenu audiovisuel qui mise sur le co-visionnage et l'interaction parent-enfant.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages et ces informations. T'es pas du tout au courant.
Pour clôturer cette discussion, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos interlocuteurs ou à nos interlocutrices peut-être ce qu'il est important de retenir de tout ça?
Alors, je dirais que chaque interaction avec une technologie numérique est une confrontation directe avec une conception persuasive. Ces systèmes captent notre attention, récoltent nos données et manipulent subtilement notre comportement, nos décisions, nos habitudes. En prendre conscience et la limiter est une première action, mais la vraie question reste, jusqu'où acceptons-nous que nos choix, notre temps et même notre santé soient influencés par ces technologies? Cela demande une vraie volonté de changer les modèles économiques actuels. Selon moi, il faudrait apprendre et repenser notre société qui est basée sur l'attention pour revenir sur des modèles plus responsables et conviviaux.
Merci beaucoup Camille et Adrien pour votre travail et votre présentation. Sans plus attendre, je laisse la parole à Axel et Oussama pour la deuxième partie de cette émission.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler donc des data brokers ou courtiers de données en français. Pour illustrer donc l'importance de ces entités, souvent méconnues, nous allons d'abord introduire les entreprises dont le modèle économique est fortement lié à ces data brokers, c'est-à-dire les GAFAM. Donc les GAFAM, c'est l'acronyme qui désigne les 5 grandes entreprises du numérique. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ce sont des plateformes devenues incontournables dans nos usages quotidiens, comme par exemple dans la recherche, la communication, l'achat, le cloud, les réseaux sociaux. Elles dominent aussi le marché financier, avec des capitalisations boursières qui se comptent en milliers de milliards de dollars et des augmentations d'entre 500 à plus de 1000% de capitalisation entre 2010 et 2021, selon des études faites par Statista. Pourtant, la majorité de leurs services sont gratuits pour les utilisateurs. Leur principal modèle économique repose donc sur la publicité ciblée, rendue possible par l'exploitation de données personnelles. C'est là qu'interviennent les data brokers. Selon Wikipédia, les data brokers sont des entreprises spécialisées dans la collecte et la vente ou revente de données, et en particulier de données personnelles, telles que les revenus, l'origine ethnique, la conviction politique ou encore des données de géolocalisation. Pour illustrer ça, on va vous prendre donc un exemple qui nous semble assez pertinent. Axiom, l'un des plus grands data brokers au monde. Selon Wikipédia, il possède des informations sur plus de 2,5 milliards de personnes, avec jusqu'à 3000 attributs par individu. On y retrouve par exemple l'âge, les revenus, la santé, l'achat, la navigation web. Ces données proviennent de sources variées, comme des formulaires en ligne par exemple, des programmes de fidélité ou encore des objets connectés, via des cookies ou des outils de suivi comportemental. Pour centraliser ces données, Axiom utilise ensuite une technologie appelée Ability Link qui crée un identifiant unique pour chaque personne. Cela permet à sa filiale LiveRamp d'unifier les données issues de sources multiples et ces profils sont enfin vendus à des entreprises de la publicité, de banques ou encore des assurances. En bref, les data brokers jouent un rôle central dans la publicité ciblée en fournissant aux annonceurs des profils détaillés d'utilisateurs pour leur permettre de diffuser des messages ultra personnalisés. Cela montre que derrière la gratuité des services numériques, il y a une monnaie d'échange bien réelle, nos données. Mais cette ressource n'a pas seulement une valeur commerciale. En guise d'introduction, pour développer cette affirmation, on vous propose un petit extrait de M. Claude Maluret, sénateur français, provenant de Public Sénat et datant de 2023, qui montre la crainte du gouvernement français sur la collecte et le transfert de données.
Bonjour Claude Maluret, merci d'être notre invité ce matin. Sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous êtes membre du bureau politique d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Et on va parler de votre rapport, puisque vous avez remis hier votre rapport sur le fonctionnement et la stratégie d'influence de TikTok. TikTok, c'est ce réseau social d'origine chinoise. C'est une application qui est utilisée chaque mois par 150 millions d'Américains, 150 millions d'Européens. On va en parler. Avant de parler de vos recommandations, quel est le problème avec TikTok? Quelle dérive?
Alors, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a le problème de toutes les plateformes. On connaît leurs défauts, les fake news, les élections influencées, la haine en ligne, le harcèlement, etc. Bref, ça c'est toutes les plateformes. TikTok, en plus, a deux problèmes particuliers. Il en a d'autres, mais il a deux particuliers. Le premier, c'est que vous disiez, il est d'origine chinoise, mais il n'est pas seulement d'origine chinoise. Il est resté lié à la Chine, avec le contrôle, évidemment, du Parti communiste chinois, avec des transferts de données massifs vers la Chine, ce qui, pour le moins, évidemment, vous imaginez, surtout avec 150 millions d'utilisateurs aux États-Unis et en Europe, ça fait beaucoup de données qui partent en Chine. Donc c'est un premier problème majeur. D'ailleurs, TikTok est déjà interdit pour la plupart des fonctionnaires de tous les pays européens.
Depuis la fin de la guerre froide, la Chine est clairement devenue le concurrent principal des États-Unis sur l'échiquier mondial, notamment dans le domaine du numérique sur les 10 dernières années, notamment avec l'émergence de grandes entreprises chinoises comme Huawei, Alibaba, Tencent ou ByteDance, qui arrivent petit à petit à concurrencer les GAFAM, notamment sur les réseaux sociaux, avec des plateformes comme TikTok, et ça du coup ça prouve cette émergence. Cette application est un point central du conflit entre les USA et la Chine sur l'espace numérique. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend un homme politique français montrant les inquiétudes du gouvernement français et même de l'Europe de manière générale sur TikTok. Mais ce sont bien les États-Unis qui ont été les premiers à soulever ces problématiques. Pour étayer ces problématiques, on va s'appuyer sur un article de Jacques Fontanel, professeur au Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes, qui résume cette guerre commerciale et géopolitique autour de TikTok. On y apprend que dès 2019, les États-Unis avaient lancé une enquête sur ByteDance, l'entreprise mère de TikTok. Ils soupçonnaient l'entreprise de transférer des données d'utilisateurs américains aux autorités chinoises. Ce soupçon est majoritairement fondé sur la loi chinoise sur la cybersécurité, obligeant toute entreprise opérant en Chine à coopérer avec les services de renseignement nationaux. Cette méfiance prend encore plus de place lorsque Trump s'intéresse à TikTok en 2020, à la suite d'un de ses meetings sabotés par des jeunes ayant réservé des places massivement sans se rendre au meeting. C'est une action qui a été coordonnée via des vidéos sur TikTok qui l'a beaucoup énervé. Du coup, il prend rapidement les choses en main et signe un décret interdisant TikTok aux États-Unis le 31 juillet 2020. Cependant, cette interdiction sera levée si les activités de TikTok sur le territoire américain sont entièrement cédées à une entreprise américaine dite de confiance. Suite à ça, des négociations s'ouvrent, notamment avec Microsoft et Twitter, mais c'est finalement l'entreprise Oracle qui arrive à négocier un partenariat avec ByteDance le 20 septembre. Ce partenariat serait uniquement basé sur un hébergement cloud des données et non un rachat total, rachat contre lequel ByteDance s'oppose catégoriquement, mais du coup ça ne convient pas à Donald Trump qui maintient donc sa position et le décret. Cependant, la Chine et ByteDance répliquent en considérant ce décret comme un abus de pouvoir et une mesure déloyale commercialement parlant, poussant les juges fédéraux américains à suspendre le décret temporairement, permettant à TikTok de continuer à opérer. Cette situation, bien que Trump ait changé d'avis sur TikTok depuis, reste très similaire en 2025. On a notamment pu observer en début d'année, il me semble que c'était le 19 janvier, un bannissement mis en place qui a été à la suite levé pour les mêmes raisons, donc cet accord déloyal commercialement parlant. Donc ce bras de fer entre les deux pays montre ce bras de fer entre deux pays pour une application qui appartient à une entreprise privée montre bien que la valeur des données personnelles semble dépasser le cadre commercial et qu'elles ont une véritable valeur géopolitique. Pour vous donner une idée de cette valeur, nous allons vous passer un petit extrait d'une vidéo du journal Le Monde sur l'affaire Cambridge Analytica qui a eu lieu lors de la campagne électorale de Trump en 2016. Cette vidéo a été réalisée par Martin Undersinger et Pierre Trouvé.
Il y a une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica qui a participé à la campagne de Donald Trump pour la présidentielle américaine, qui est accusée d'avoir siphonné les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. C'est une entreprise, un sous-traitant de Cambridge Analytica, qui a créé en 2014 un quiz. À l'époque, il est possible de récupérer non seulement les données personnelles des gens qui répondent à ce quiz, mais également de tous leurs amis. C'est pour ça qu'ils ont réussi à récupérer autant de données. On est passé très rapidement d'un scandale Cambridge Analytica à un scandale Facebook. Pourquoi ? parce qu'à l'époque des faits, Facebook autorise parfaitement cette aspiration de données personnelles. Du coup, on accuse Facebook d'avoir laissé faire et de ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles des utilisateurs.
So, this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. You know, we have a basic responsibility to protect people's data.
Si ça fait scandale, c'est aussi qu'il y a un contexte très particulier. Facebook est accusé déjà aux États-Unis et en Europe d'avoir laissé se propager la propagande russe et de ne pas lutter suffisamment contre les fausses informations.
On a vu donc avec l'exemple de TikTok qu'une puissance mondiale comme les États-Unis craignait la potentielle détention de données de la Chine. Et cette crainte semble justifiée. Nous allons vous donner des exemples de comment ces données peuvent être exploitées, ironiquement, par les États-Unis eux-mêmes. Prenons un exemple devenu emblématique et dont vous avez pu entendre un petit extrait. La campagne présidentielle américaine de 2016. Un data broker, britannique Cambridge Analytica a utilisé une application de quiz pour récupérer sans autorisation les données de plus de 87 millions d'utilisateurs Facebook. En croisant ces informations, elle a permis de dresser des profils psychologiques détaillés pour ensuite cibler les électeurs avec des messages politiques personnalisés. Des contenus sur mesure, construits pour jouer sur des messages, sur des émotions, les craintes, les convictions profondes. Une manipulation massive qui n'aurait jamais été possible sans la matière première, les données personnelles. Mais ce type de manœuvre n'est pas réservé aux entreprises privées. En effet, la NSA, l'Agence nationale de sécurité des États-Unis, en est un exemple frappant d'utilisation de données sans consentement. Grâce au programme PRISM ou XKScore, révélé par Edward Snowden en 2013, elle a mis en place un système de surveillance à très grande échelle en s'appuyant sur les données des géants du numérique. Tout cela légalement justifié par la Patriot Act, adoptée après les attentats du 11 septembre.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Aux États-Unis toujours, une enquête menée par Carey Schenkman, un auteur spécialisé dans les droits civils, montre que des agences publiques, notamment des commissariats locaux, achètent directement des données aux data brokers pour contourner les procédures judiciaires classiques du pays, qui sont souvent lourdes et longues. Cette logique de contournement affaiblit grandement les garanties démocratiques les plus fondamentales du pays. De plus, les transactions opérées par les data brokers prennent alors une toute autre dimension. En vendant des données à des entreprises privées, ils les rendent en réalité accessibles aux États et aux agences de renseignement qui exploitent ces informations à des fins supposées être sécuritaires ou stratégiques, mais avec un risque d'abus bien réel. Dans un monde où le soft power passe par la donnée, où l'information devient une arme stratégique, se pose une question centrale : qui contrôle les contrôleurs ? Certes, des lois existent pour encadrer la protection des données, mais elles sont souvent nationales alors que les enjeux sont mondiaux, surtout dans le numérique où il n'y a pas de frontières. Et face à des acteurs aussi puissants que les GAFAM ou les services de renseignement, ces cadres juridiques montrent rapidement leurs limites. Il devient urgent de repenser la gouvernance de la donnée, non plus comme un simple bien économique, mais comme un enjeu démocratique majeur.
Merci beaucoup Oussama et Alex pour votre travail et votre présentation. Et on arrive à la fin de cette deuxième émission qui, pour rappel, est le fruit du travail des étudiants et des étudiantes du cours WE01 à l'UTC et du projet librecours.net. Cette émission sera retrouvable prochainement en podcast sur tube.picassoft.net avec l'ensemble des sources utilisées. Merci pour votre écoute et on se retrouve d'ici 10 minutes, un quart d'heure avec le dernier groupe de l'après-midi.